Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les stratégies des établissements d'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Piovesan, journaliste à AEF Info, et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Bernard Ramanantsou, doyen honoraire d'HEC Paris, pour recevoir notre invité du jour, Bénédicte Fauvarque-Causson, administratrice générale du CNAM depuis septembre 2022. Bonjour Bernard et bonjour Bénédicte.
Bonjour Sarah, bonjour Bénédicte.
Bonjour Sarah, bonjour Bernard.
Bénédicte Fauvarque-Causson, vous êtes une nouvelle venue dans le milieu des dirigeants de l'enseignement supérieur. C'est un univers pourtant que vous connaissez très bien pour être à l'origine une pure académique. Avant le CNAM, vous avez été professeur d'université à Paris 2 Panthéon Assas depuis 2002. Vous avez notamment dirigé un master en droit de l'environnement. Vous avez aussi été vice-présidente de l'Académie internationale de droit comparé et de l'Institut européen du droit. Et puis vous avez un peu touché à la politique, comme conseillère en charge des états généraux de la justice au cabinet du ministre Éric Dupond-Moretti. Vous êtes donc juriste, spécialiste de droit international privé, de droit comparé et de droit européen des contrats. Et vous êtes aussi membre du Conseil d'État depuis 2018. Après un tel parcours, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la tête d'un établissement comme le CNAM ?
Alors le CNAM, il faut s'en rendre compte, est un établissement unique, très singulier. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle mission que celle qu'il porte. Il a été fondé en 1794 par l'abbé Grégoire, dont on cite souvent cette phrase « Il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître ». Alors les choses ont changé depuis, heureusement, mais la devise du CNAM, « Il enseigne à tous et partout », est restée notre devise et au fil du siècle, le CNAM est devenu un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Et il se déploie partout en France, dans toutes les disciplines, ou presque, et il est connu pour la qualité de sa recherche, la qualité de son enseignement et la diversité de ses publics. Donc lorsque j'ai su que le poste était vacant, j'étais au Conseil d'État, j'ai intégré le Conseil d'État 4 ans plus tôt et effectivement je suis passée quelques mois au cabinet du ministre de la Justice. Mais pour moi c'était une évidence, prendre la direction de cet établissement, c'est exactement ce dont j'avais envie. Après avoir été longtemps professeur de droit, après avoir été dans le droit public et le droit privé, je me sentais assez armée pour cela.
Vous aviez déjà envisagé de prendre la tête d'un établissement d'enseignement supérieur ou c'est vraiment le CNAM qui vous a séduite ?
Le CNAM m'a vraiment séduite, mais j'aime beaucoup l'action, j'aime bien entreprendre et ça ne m'était en effet pas du tout étranger comme perspective.
Alors le CNAM, c'est un univers en soi. D'abord, il faut dire qu'il ne s'occupe pas que de gestion. Loin de là, même si c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Au CNAM, on enseigne aussi l'ingénierie, les sciences et les techniques, le droit, la sociologie, la santé publique, etc. Dans 750 formations au total, à Paris comme en région, et même dans certains pays étrangers. En fait, sa spécificité, comme vous le disiez, c'est ce qui le différencie des universités traditionnelles, c'est qu'il a une mission de formation professionnelle supérieure tout au long de la vie. Mais entre les universités, les organismes de formation professionnelle, les centres de recherche, puisque je note que certains titulaires de vos chaires sont aussi médiatiques que ceux de Sciences Po, je pense notamment à l'épidémiologiste Arnaud Fontanet ou le criminologue Alain Boer, par exemple, on ne sait pas forcément très bien dans quelle catégorie vous êtes. Vous êtes ailleurs, vous êtes unique dans votre espace. Est-ce que ça ne vous confère pas une petite problématique d'image ?
Alors, certainement, le CNAM n'est pas une université. Et pour cette raison, ceux qui s'inscrivent au CNAM ne sont pas des étudiants, ce sont des auditeurs. Et du reste, ce sont le plus souvent des professionnels. Et puis, ce qui a changé, c'est que pendant plus de 2 siècles, le CNAM était le seul grand acteur public sur le terrain de la formation continue. Aujourd'hui, dans ce domaine, vous avez à la fois les universités qui arrivent en force et puis, bien sûr, tout le secteur privé. Donc, le CNAM n'était pas habitué à cela. Donc, il y a vraiment un sujet de concurrence et de transformation du CNAM. Et puis, en ce qui concerne la lisibilité et la visibilité du CNAM, c'est vrai que dans l'image du public, le CNAM est peut-être avant tout une école d'ingénieurs. Nous diplômons plus de 1000 ingénieurs par an. Et une école qui permet à des techniciens de devenir ingénieur grâce à des années de travail le soir et le week-end en travaillant dur. Mais en réalité, au CNAM, on trouve toutes sortes de parcours, chacun à son rythme. Et plus de la moitié de nos auditeurs sont maintenant dans le secteur des sciences humaines et sociales. Donc il y a une diversité beaucoup plus grande que celle que l'on connaît. Et par ailleurs, la moyenne d'âge est de 30 ans. Et on est de plus en plus sur le terrain de la formation initiale, en particulier avec l'alternance.
Est-ce que vous avez un modèle dans le monde, enfin en France ou dans le monde, dont vous aimeriez vous rapprocher ?
Je crois que nous cultivons la singularité qui est la nôtre. Et je n'ai pas trouvé de modèle équivalent. Il y a des Open University, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Chine, avec un enseignement à distance, multidisciplinaire, comme le CNAM. Mais au CNAM, nous avons aussi des laboratoires de recherche extrêmement prestigieux, qui sont d'ailleurs dans le classement de Shanghai, pour certains. Et puis nous avons un musée, un grand musée national, et ça, c'est vraiment unique au monde.
On va poser la même question sous un autre angle. Est-ce que vous avez des concurrents ?
Ah, on en a partout. Évidemment, tout le marché de la formation continue aujourd'hui, ce sont des concurrents qui viennent du public et du privé. Mais nous sommes solides, nous sommes là depuis plus de 2 siècles et nous sommes aussi agiles.
Et si on fait une segmentation un peu traditionnelle, en termes de recherche, c'est qui vos concurrents ? Et plus spécifiquement sur la gestion, puisque c'est le thème majeur de notre entretien.
En termes de recherche, je positionnerais les choses différemment. Je dirais qu'on a des partenaires, on travaille beaucoup avec les organismes de recherche, bien sûr, le CNRS, l'INRIA, etc. Et on travaille en partenariat et on répond ensemble aux appels à projets. Et puis, pour la recherche, ce qui est important, c'est le financement aujourd'hui sur convention, sur appel à projets. Et là, le CNAM est bien positionné.
Et alors, si je suis une entreprise que j'ai envie d'envoyer mes cadres en formation continue et que je lance un appel d'offres, qu'est-ce que vous mettez en avant pour que j'ai envie de travailler avec le CNAM et pas avec une autre institution ?
Alors, en premier, nous mettons en avant la qualité de nos formations. Nous avons 370 enseignants-chercheurs qui sont là et qui travaillent dans des laboratoires, et tout leur enseignement est nourri par cette recherche qui est une recherche à la fois de très haut niveau et une recherche appliquée tournée vers les entreprises. Ce qui caractérise le CNAM, c'est son ancrage dans le monde socio-professionnel, parce qu'il a été fondé pour perfectionner l'industrie nationale, et donc le lien avec les entreprises a toujours été très fort. Et puis nous mettons en avant aussi, d'abord le fait que nous soyons dans le centre de Paris. On a la chance d'avoir près de 100 000 m² au cœur de Paris. Ce sont des lieux absolument magnifiques. La notoriété et la réputation du CNAM. Et puis, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Les diplômes que nous délivrons sont des diplômes nationaux ou des certificats du CNAM. Ça a une vraie valeur. Et enfin, nous avons un service qui s'appelle CNAM Entreprises, qui travaille en direct avec les entreprises, précisément pour co-construire des parcours avec les entreprises. Donc, une grande souplesse.
Et en termes de recherche, quels sont les arguments que vous mettez en avant pour attirer des profs ?
Alors, à vrai dire, on n'a pas tellement besoin de mettre des arguments en avant. On publie les postes et, en général, on a toujours des candidats et de très bons candidats. Ce qui est original au CNAM, c'est qu'on a des enseignants-chercheurs qui ont un parcours classique universitaire, maître de conférence, professeur d'université, et nous avons aussi des professeurs titulaires de chaire sur des sujets plus transversaux, plus en lien avec l'entreprise. Et là, il faut parfois aller les chercher parce que ces professionnels n'auraient pas forcément tout de suite l'idée d'aller postuler sur une chaire. En tout cas, une chose est certaine, venir au CNAM et être professeur titulaire de chaire au CNAM, il y a un prestige qui fait qu'en général, nous avons de très bons candidats.
Et alors, quel est votre grand problème stratégique aujourd'hui ?
Alors, je crois qu'il est lié à la complexité. Le CNAM s'est beaucoup déployé avec un établissement public à Paris, mais aussi 19 centres en région qui sont des associations de droit privé, 5 grands centres à l'étranger. Il s'est déployé aussi avec une offre extrêmement riche et il touche tous les publics, c'est sa devise depuis toujours. Donc on est à la fois dans la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle, mais aussi dans la formation initiale avec l'alternance. Et puis, il y a une complexité administrative, ce n'est pas propre au CNAM, mais que l'on retrouve au CNAM. Et l'une de mes premières actions...
Les mauvaises langues disent même que c'est ingérable, le CNAM. Vous confirmez après un an et demi ou pas ?
Vous savez, les réputations ne sont pas toujours fondées, mais en l'occurrence, je dirais qu'elle n'est pas complètement infondée. En fait, ce n'est pas ingérable, c'est extrêmement complexe. C'est un défi, en effet, d'arriver à simplifier les choses, mais nous allons y arriver. Il faut simplifier à la fois pour ceux qui viennent s'inscrire au CNAM, parce que la grande richesse et la diversité fait qu'il n'est pas toujours facile de se repérer. Puis il y a aussi une diversité sur les tarifs et les statuts de chacun. Et puis, il faut simplifier en interne également, parce qu'il y a beaucoup de couches administratives et une certaine lenteur, mais comme dans toutes les universités, comme dans tous les grands établissements.
Je reviens une minute sur la question de Bernard concernant les cadres dirigeants. Quelle est votre offre? Est-ce que vous avez, par exemple, comme les business schools, des MBA, des exec MBA? Est-ce que vous avez des projets en la matière?
Oui, alors nous en avons quelques-uns, mais nous pourrions le développer beaucoup plus. Et nous devrions le faire et nous allons le faire. Donc CNAM Entreprises est le lieu où les entreprises peuvent venir et dire ce dont elles ont besoin, mais il faut aussi que nous ayons une offre à destination d'un public très large, donc des MBA tout à fait, des masters spécialisés. Et nous le faisons au sein du CNAM, mais il y a une certaine complexité dont je parlais tout à l'heure. Donc nous pourrions tout à fait, comme beaucoup d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, développer plus la filière executive education, et nous comptons le faire.
Quels sont les tarifs que vous pratiquez ?
C'est extrêmement variable. Donc quand c'est un diplôme national, une licence, un master, eh bien on est dans les tarifs nationaux de quelques centaines d'euros. Et puis, lorsque c'est un MBA, eh bien c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais en général, on est plutôt assez en dessous des tarifs qui sont pratiqués sur le marché. Nous avons une fibre sociale qui est très développée et donc je tiens beaucoup à ce que nos tarifs restent très raisonnables. Mais malheureusement, parfois, les tarifs sont un peu interprétés comme un gage de qualité, d'excellence. Et donc, il faut que nous arrivions à nous positionner sur ce terrain-là.
Alors, je reste un petit peu sur ce grand secteur de la formation pour adultes, on va dire, continue ou autre. On voit se développer de gros acteurs privés, que ce soit d'ailleurs en formation initiale ou continue, et notamment à distance. Je pense par exemple à des plateformes comme LinkedIn Learning. Est-ce que le CNAM est armé au niveau de ses moyens, au niveau de ses systèmes d'information aussi, pour faire face à ce type de machine de guerre, entre guillemets?
Oui, le CNAM est armé. Le CNAM a toujours eu une longueur d'avance. Nous étions le premier établissement à donner des cours à la télévision. Et la formation à distance a toujours été quelque chose qui a été mis en avant par le CNAM. Alors, évidemment, pendant la pandémie, ça a été décuplé. Et nous avons les forces pour le faire, mais la concurrence se développe, elle est très vive, avec des structures qui vont plus vite, donc nous devons garder cette avance. Et nous sommes d'autant mieux armés que nous avons des enseignants-chercheurs qui travaillent précisément sur ces questions-là et qui développent, par exemple, on a un grand projet sur les jumeaux numériques et vous pouvez faire des travaux pratiques et vous retrouver virtuellement au cœur d'une centrale nucléaire et intervenir pour réparer, vous voyez, au cœur de la centrale, avec des outils numériques, et vous entraîner. Et là, c'est la même chose aussi pour les travaux pratiques de chimie. Donc nous avons tout à fait la capacité de le faire, et nous le faisons de plus en plus. Notre offre de formation à distance est extrêmement riche.
Et elle a le même prix, elle est proposée au même prix que les formations en physique?
Alors, tout dépend, là encore, du type de diplôme et de parcours, mais parfois, ce sont les mêmes prix et vous pouvez choisir d'être soit à distance, soit en physique. Et ce que nous développons beaucoup, c'est l'hybride, c'est-à-dire des réunions quand même avec le professeur, soit physique, soit également à distance.
Alors, il y a un autre gros sujet qui fait beaucoup couler d'encre dans le milieu depuis un an et demi, c'est l'intelligence artificielle, évidemment, avec l'arrivée fulgurante de ChatGPT et tous les autres systèmes d'IA générative. Au CNAM, vous bénéficiez d'équipes de recherche de pointe sur l'IA. Comment vous abordez cette question de l'IA dans les formations, notamment, est-ce que vous avez des projets en la matière? Comment vous vous projetez dans les 5 ou 10 ans à venir sur cette question-là?
Alors, je crois que dans les 5 ans, ça suffira parce que les choses évoluent tellement dans ce domaine. Nous avons en effet un grand laboratoire et nous avons de vraies compétences de recherche fondamentale et de recherche plus appliquée dans le domaine de l'IA. Maintenant, Le défi, et c'est le même défi pour beaucoup d'établissements, c'est de transposer ces compétences et d'en être les premiers bénéficiaires. Et comme nous sommes en train de travailler sur notre contrat pluriannuel, donc pour les 5 prochaines années, le contrat d'établissement, nous avons mis l'IA au cœur des réflexions et ce sera un des grands axes stratégiques. Donc l'intelligence artificielle pour nos propres formations, pour le fonctionnement administratif aussi du CNAM, c'est extrêmement important. Et puis également, mieux nous faire connaître, car sur ce terrain-là, comme vous l'avez dit, et je suis heureuse de voir que vous l'avez identifié, nous avons des équipes de chercheurs de très haut niveau.
Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations concrètes pour vos étudiants, pour vos profs ou pour l'usage de l'IA sur la gestion du CNAM ?
Pour les étudiants, il y en a. C'est de l'initiative de chaque enseignant-chercheur. Pour l'usage quotidien au CNAM et pour l'administration, nous sommes en train de commencer à les mettre en place, mais c'est encore assez embryonnaire.
Vous avez lancé, depuis que vous êtes arrivé, le concept d'école. Enfin, ça existait peut-être avant vous, mais vous avez fait une école de l'énergie, une école de la transition environnementale, je crois. Quel est le but recherché avec ces structures-là ?
Ce qui m'a frappé en arrivant, c'est que nous avons plus de 750 parcours de formation, des milliers d'unités d'enseignement proposées à la carte, et rares sont ceux qui le savent. Et donc, j'ai regardé les domaines dans lesquels nous étions les plus forts, et il se trouve qu'il y en a beaucoup, donc on ne pouvait pas tout lancer en même temps, donc on a commencé à se positionner sur le terrain des grandes transitions. Donc nous avons recensé tout ce que nous avions dans le domaine des transitions écologiques et dans le domaine de l'énergie, et nous avons lancé deux grandes écoles en septembre dernier, l'école des transitions écologiques, l'école de l'énergie. Et en septembre prochain, nous lancerons une école de la santé. Vous voyez, dans l'esprit du public, le CNAM n'est pas identifié dans le secteur de la santé. Et pourtant, nous avons une offre très riche, près de 10% des auditeurs inscrits au CNAM. Et nous avons environ 52 000 auditeurs suivent un cours qui a un lien avec la santé. Santé publique, santé numérique, handicap et inclusion, ou encore les sciences de la vie. Donc nous allons lancer une école de la santé. Nous allons aussi lancer d'autres écoles et peut-être aussi une école de management sciences sociales, sciences des données.
Ça, c'est un scoop.
Avec tous les projets que vous nous rappelez, qui sont impressionnants, avec le volume d'auditeurs que vous avez, avec la taille de votre corps professoral, tout ça débouche évidemment sur une question, je crois, naturelle, c'est le budget. Alors, vous pouvez nous rappeler un peu quel est le budget du CNAM et comment il se répartit, et surtout comment vous le voyez évoluer dans les années à venir, dans les 5 ans à venir.
Alors, vous allez comprendre la complexité. Il y a le budget de l'établissement public, qui est de 175 millions d'euros en 2024, et qui est réparti de la manière suivante. 135 millions d'euros pour le personnel et 40 millions d'euros pour le fonctionnement. Et à cela, il faut ajouter 13 millions d'euros en investissement. Alors, essentiellement pour l'immobilier, mais aussi en matière de formation et en matière de recherche. Et puis, il y a le budget de tout le réseau. Donc, établissements publics et les 19 centres en région. Et là, on est plutôt à 240 millions d'euros. Si on revient à l'établissement public, ce qu'on constate, c'est que 70% de nos recettes, c'est la subvention de l'État. Mais si on prend l'ensemble du réseau, on est plutôt à 50-50. 50 subventions et 50% des recettes venant des droits d'inscription, de l'alternance, qui s'est beaucoup développée en région, bien sûr, des contrats de recherche, essentiellement. Donc, pour l'avenir, je crois qu'il va falloir, comme les universités, essayer de renforcer encore cette part de recettes qui viennent du privé et qui est nettement plus importante déjà que dans les universités. Et pour cela, eh bien, nous devons augmenter le nombre d'auditeurs, augmenter un peu, mais pas trop, les droits d'inscription, lorsqu'on peut le faire, hein, pas surtout les formations, et puis diversifier nos publics et nous tourner peut-être plus aussi vers les entreprises que nous ne le faisons encore aujourd'hui.
Et en ce qui concerne la subvention de l'État, vous êtes raisonnablement optimiste pour les années à venir ou vous pensez que vous allez souffrir comme tout le monde ?
Alors, je suis raisonnablement optimiste. Le CNAM, c'est un bien commun pour tous les Français. C'est unique au monde. Et je n'ai pas encore parlé du musée, mais nous avons un musée extraordinaire. Et c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche donc, qui finance le CNAM et qui finance ce musée à travers cette subvention. Donc c'est un tel établissement que, bien sûr, il a survécu plus de 2 siècles et il a été créé pendant la Révolution française dans la tourmente. Donc, je ne peux pas imaginer nous disparissions. Néanmoins, nous devons nous transformer et, comme tout le monde, nous devons rechercher de nouvelles ressources propres.
Alors, on va parler du musée dans un instant. Juste avant, une petite question sur votre école d'ingénieur, parce que je crois que vous avez des projets pour la renouveler un petit peu, peut-être la repositionner. Quelles sont les grandes lignes du projet que vous portez pour votre école d'ingénieur?
Oui, nous avons une école d'ingénieur qui s'appelle le ICNAM, mais en réalité, les grandes forces du CNAM sont dans les 16 départements. Il y a 8 départements dans le domaine des sciences et 8 dans le secteur des sciences humaines et sociales. Et en réalité, cette école d'ingénieurs n'existe pas comme une vraie école d'ingénieurs, puisque ce sont les départements qui sont les richesses et qui portent aussi les laboratoires du CNAM. Du coup, ça rend les choses un petit peu confuses. Et je pense qu'au moment où nous créons les écoles, il faut aussi rendre beaucoup plus visible notre école d'ingénieurs. Et ce qui caractérise cette école d'ingénieurs, c'est que pendant très longtemps, c'était une école d'ingénieurs pour la formation continue. Et on a célébré il y a peu de temps les 100 ans du premier diplôme d'ingénieur. Et aujourd'hui, près de la moitié de ceux qui sont inscrits dans des FISA, c'est-à-dire des formations initiales en alternance. Donc là aussi, c'est un grand changement. Et nous portons dans les territoires le diplôme d'ingénieur jusqu'au dernier kilomètre, et puisque nous avons 19 centres en région et 230 antennes dans des villes moyennes. Et c'est un vrai défi, parce que ce que l'on nous demande aussi, c'est la présence d'enseignants-chercheurs. Or, les enseignants-chercheurs sont dans l'établissement public, ils s'investissent énormément pour porter ces diplômes dans les territoires. C'est un travail colossal qu'on leur demande. Et bien sûr, ils ont aussi la recherche. Donc, il faut repenser tout cela, revoir un peu les moyens, utiliser aussi les technologies modernes, c'est un défi également, et continuer de remplir cette mission sociale qui est la nôtre, de permettre à des jeunes qui ne sont pas proches d'une grande école ou d'une grande université de poursuivre des études en restant dans leur ville s'ils le souhaitent.
Dernier point, le musée, puisque c'est l'un de vos grands projets. Vous aimeriez lancer une rénovation majeure et ambitieuse de ce musée du CNAM, dont vous dites qu'il recèle de véritables trésors sur l'histoire industrielle de la France. Qu'aimeriez-vous faire exactement et comment allez-vous vous y prendre?
C'est une vaste question. Alors, les derniers grands travaux remontent à la fin du siècle dernier. Et le musée est absolument unique, unique en France, unique au monde, je crois. Une immense collection industrielle. Nous exposons 2800 objets, mais nous en avons plus de 80 000 dans des réserves. Et c'est tout à fait extraordinaire et trop méconnu. Alors, je souhaiterais pour cela entreprendre de grands travaux à la fois dans le musée. En fait, ils sont indispensables parce que les bâtiments anciens ont besoin d'être rénovés. Et puis, le rendre beaucoup plus visible, pour aujourd'hui nous conformer un petit peu aux présentations qu'il y a dans des musées, avec des expositions beaucoup plus interactives. Et nous avons déjà chaque année de grandes expositions. En ce moment, l'exposition Explorer. L'année prochaine, ce sera sur l'empreinte carbone. Donc, il est important que nous soyons aussi en phase avec les enjeux écologiques, industriels du moment. Et pour cela, nous avons monté un conseil scientifique. Nous préparons un projet scientifique et culturel pour le musée et nous allons aller aussi nous tourner vers l'extérieur pour se faire connaître. Et puis, nous avons au CNAM une fondation et la fondation du CNAM va pouvoir nous aider pour avoir du mécénat pour transformer ce musée.
Vous allez chercher.
Le budget tel que vous le voyez pour cette rénovation, restructuration, c'est combien à peu près ?
Ce sont des dizaines et même peut-être des centaines de millions d'euros parce que la rénovation des bâtiments est de taille. Et puis ensuite, il faut le faire vivre et le transformer. Cela ne se fera pas dans les 2 ou 3 ans à venir. Donc, on a préparé 2 plans. Un plan pour les 5 années à venir et puis un grand plan de transformation pour la suite.
Donc, vous allez aller chercher de grands mécènes, en fait.
Exactement.
Bénédicte Fauvarque-Causson, notre temps est bientôt écoulé. Il nous faut donc en arriver à la question rituelle de fin du grand oral. Quel conseil de lecture ou d'écoute ou de visionnage, si c'est un film ou un documentaire, auriez-vous à formuler pour nos auditeurs, histoire de continuer à réfléchir ou à se cultiver?
Alors, je m'en tiendrai à la lecture. Bien sûr, les œuvres complètes de l'abbé Grégoire, mais bon, voilà. Et sinon, dernièrement, j'ai lu le roman de Gaspard Koenig, Humus, et j'ai trouvé que c'était un roman à la fois grinçant, pétillant, alors d'abord, vraiment qui vous captive, et puis il raconte la jeunesse de notre temps, il raconte ses combats, ses enthousiasmes, ses paradoxes aussi, deux étudiants d'agro-paritech un peu désabusés, que tout semble opposé et qui vont se lier d'amitié après avoir entendu une conférence, c'est pas banal, sur la science des vers de terre. Et à partir de là, eh bien, c'est toute une satire aussi de la société, de la complexité administrative. Ça m'a aussi interpellée. Et puis, bien sûr, c'est un roman. Et heureusement, c'est un roman parce que la fin est plutôt dramatique. Mais quand même, il y a une part de vérité sur la jeunesse aujourd'hui et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant à lire.
Bon, vous nous avez mis un appétit. Merci Bénédicte Fauvarque-Causson, administratrice générale du CNAM, de nous avoir rendu visite au studio Module. Merci aussi à vous, cher Bernard, et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité, et d'ici là, portez-vous bien.